Comment introduire ce sujet de cette journée, vivre Christ dans un monde qui change? Avec ces trois problématiques liées au bien, au temps et au corps. Comment introduire? Eh bien, je crois que nos frères organisateurs de cette journée ont eu une idée lumineuse. Celle que ce désir qu'ils ont eu que nous commencions ces moments en étant occupés du Seigneur Jésus, Jésus parmi ses contemporains, Jésus dans le monde. Vivre Christ dans un monde qui change, en fait, c'est le chrétien dans le monde, Jésus dans le monde. Vous ne trouvez pas que c'est un parallèle merveilleux, mais aussi éprouvant? Jésus dans le monde. C'est ce qu'a voulu traduire le poète chrétien d'un de nos cantiques. Dans ce désert aride et sans chemin tracé, c'est-à-dire dans le monde, mon sauveur et mon guide, mon modèle a passé. Alors que nous nous interrogeons sur ces différentes problématiques, nous pouvons chacun nous dire « Mon modèle a passé ». Jésus dans le monde. Je voudrais d'abord lire deux versets. Le premier dans l'évangile de Jean, une expression dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er. Et au verset 35, le lendemain encore, Jean se tint là, et deux de ses disciples, et regardant Jésus qui marchait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Regardant Jésus qui marchait, c'est très important d'avoir un modèle, mais ça ne suffit pas. Alors je lis un deuxième verset dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux. Au verset 1, « Or, la somme de ce que nous disons, c'est que nous avons, non pas il y a, mais nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. » Jésus dans le monde, le chrétien dans le monde. Jésus dans le monde. Il faut que je parle un tout petit peu du monde. Parce que quelqu'un pourrait faire l'objection, le monde dans lequel le Seigneur Jésus est venu, ce n'est pas le monde de 2009. Nos frères ont intitulé « Dans un monde qui change ». J'ai réfléchi à cette expression. J'espère qu'on ne m'en voudra pas de dire « oui et non ». Le monde change. Oui, c'est évident, sous plusieurs aspects. Peut-être l'aspect le plus impressionnant du changement de ce monde, c'est la technologie éblouissante et quelque part aussi inquiétante. Mais il y a d'autres éléments qu'on pourrait énumérer. Il y a aussi, l'explosion démographique mondiale. Nous sommes 200 000 terriens de plus sur la Terre chaque jour. C'est sans précédent dans l'histoire du monde. Il y a aussi un autre phénomène qui s'appelle l'urbanisation. Je crois que la statistique est tombée l'année dernière. 50% de la population mondiale est en ville. Ça aussi, c'est sans précédent dans l'histoire de l'humanité et c'est loin d'être anodin. Mais surtout, le monde change parce qu'il s'éloigne de plus en plus des pensées divines, de la norme divine, et peut-être plus en Occident, mais c'est un peu général. Et le monde ne change pas dans ses principes fondamentaux. Alors, si on avait le temps, on verrait que dans la première épître de Jean, on peut voir sept caractères du monde. D'ailleurs, l'apôtre Jean emploie cette expression « les principes du monde ». Le monde, c'est quelque chose de très ancien. Il a commencé dès la chute. Et si on lit, par exemple, les 10 premiers chapitres de la Bible, de la Genèse, on voit tous les caractères du monde. Alors, avec Adam et Ève, vous avez la désobéissance à une parole de Dieu. Avec Caïn, vous avez la violence. Avec ses descendants, avant le déluge, vous avez la corruption et la violence généralisées. Et avec Babel, vous avez l'orgueil et l'idolâtrie. Vous avez tous les éléments qui font le monde. Mais peut-être qu'il y a une parole qui résume l'esprit du monde. C'est quand il est dit au chapitre 4, « Et Caïn sortit de la présence de l'Éternel. » C'est ça qui caractérise ce système organisé sans Dieu, qui est caractérisé par l'absence de Dieu. Sorti de la présence de l'Éternel et hors de cette présence, on peut faire n'importe quoi. Mais ça, c'est du côté du péché. Le monde est un système organisé sans Dieu qui est régi par Satan. Satan est le chef du monde. Ça, c'est une parole terrible. Mais c'est notre maître qui l'a dit. Je crois que Jésus a dénoncé ce chef-là. Je ne crois pas qu'on connaissait le chef du monde réellement dans l'Ancien Testament. Mais la présence de Jésus l'a dévoilé. Ça, c'est le côté du péché. Mais il y a un autre côté, c'est le côté de la souffrance. Nous sommes dans un monde qui pêche et nous sommes dans un monde qui souffre. Certes, dès le début, c'est le péché qui a entraîné la souffrance. Et ça peut encore arriver que quelqu'un pêche et par conséquent il souffre. Mais le péché et la souffrance ne sont pas toujours liés. Quand un ouvrier perd son travail, il souffre. Il n'a pas forcément péché. Quand des familles sont décimées par un tremblement de terre, eh bien, ceux qui restent souffrent. Ils n'ont pas forcément péché. Donc nous sommes dans un monde qui pêche, oui, qui est souillé, mais un monde qui souffre. Et Jésus est venu dans ce monde-là, un monde qui pêche et un monde qui souffre. Et là, je ne pourrais mieux faire que de résumer, de citer cette belle parole de J.G. Bellet, un frère tout en finesse, tout en sensibilité. Il a dit ceci, « La sainteté de Jésus fit de lui un étranger dans un monde souillé. Son amour et sa grâce le rendit actif dans un monde souffrant et misérable. » Vous voyez ? Jésus dans le monde, dans ce monde qui a péché et qui souffre. Jésus. Mais qui est Jésus ? Le Saint Fils de Dieu venu dans le monde. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, Dieu prenant une forme humaine pour vivre cette vie d'homme. C'est extraordinaire, c'est inouï. Il faut toujours que nous soyons dans l'étonnement devant Jésus. Mais pourquoi Jésus est-il venu dans le monde? Immense question qui réclame une immense réponse. Mais reprenons les termes de l'Écriture, ou quelques-uns. Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu, Hébreux 10. Il est venu pour accomplir l'œuvre que le Père lui avait donnée à faire, Jean 17. Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu, dit-il à Zachée, en Luc 19. Il est venu pour révéler Dieu, Jean 1. Et l'apôtre Jean cite deux raisons aussi. Il a été manifesté afin qu'il ôtât nos péchés et afin qu'il détruisît les œuvres du diable. Mais peut-être il y a une raison que nous ne devons pas oublier non plus. Jésus est venu dans le monde pour offrir à Dieu le magnifique spectacle d'un homme parfait. Au début, Dieu avait fait l'homme sur la terre. Et vous savez ce qui est arrivé, la chute. Et au chapitre 6 de la Genèse, on a ces paroles poignantes, qui, bouleversantes, qui, si on était plus sensible. Il est dit que Dieu s'affligea dans son cœur et se repentit même d'avoir fait l'homme devant la violence, la corruption généralisée. Comme un artiste qui a fait une statue, une magnifique statue, puis la voit tout en morceaux, là. Il est désolé, cet homme. Mais quand Dieu regarde Jésus, homme sur la terre, il n'est plus affligé. Il ne se repent plus d'avoir fait l'homme. Il dit, cet homme, c'est mon fils, et je trouve mon plaisir en lui. Jésus parmi les hommes, un homme parfait. Mais cette vision magnifique, elle était aussi, je crois, devant tout le monde angélique. Les anges n'avaient jamais vu un homme parfait. Et j'irai même plus loin. Cette magnifique vision d'un homme parfait a été vécue devant le monde angélique déchu. Et ce monde-là n'a pas supporté cette perfection. Mais elle a été vécue aussi, cette vie d'homme parfaite, devant toutes les générations de croyants qui ont passé et qui passent sur la terre, et elle est encore devant nous, immuable. Dieu n'en donnera pas une autre. Et nous ne pouvons pas glorifier Dieu sans imiter Jésus. Et nous ne pouvons pas imiter Jésus sans glorifier Dieu. Ce n'est pas possible. Au moins en partie, bien sûr. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette perfection de Jésus, homme sur la terre? Là aussi, immense question. Et nous ne pourrons qu'en donner quelques reflets de cette perfection. Et j'ai un plan tout simple pour en parler. Je trouve mon plan dans un habit même du Seigneur Jésus. Vous savez qu'il est dit que sa tunique était tissée d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Et dans tout tissu tissé, il y a deux éléments, la chaîne, les fils verticaux, sa relation avec Dieu, et la trame, les fils horizontaux, la relation avec ses, j'allais dire, ses semblables, son prochain. Oui, mais il a été fait semblable à nous. Il y a quand même le mot dans l'Écriture, à part le péché. Et finalement, ces deux directions qu'on trouve dans un tissu se trouvaient déjà dans la loi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Et notre vie chrétienne se passe dans ces deux dimensions. Notre relation avec Dieu et notre relation avec notre prochain, qui peut être notre conjoint, notre voisin, notre frère, notre sœur, etc. Et réfléchissons un instant dans ces deux dimensions merveilleuses. Alors, sa relation avec Dieu, faite de confiance, de dépendance. D'ailleurs, Jésus nous a montré tout d'abord que un homme parfait, c'est un homme qui est en relation avec Dieu. Relation de confiance, relation de dépendance. C'est un homme qui vit de la parole de Dieu. Il l'a au-dedans de ses entrailles. On me fait signe que j'ai plus que 5 minutes, vous rendez compte, pour parler de Jésus. Ah oui, le temps me manquerait encore plus que pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson. Oui. Quelle vie que la vie de Jésus. Jésus a été confronté à plusieurs catégories de personnes et il a toujours eu l'attitude correcte, l'attitude adéquate. Jésus a été confronté aussi à des éléments qui font notre vie, par exemple à l'argent. Alors on pense tout de suite que Jésus est contre l'argent, parce qu'il a dit au jeune homme riche, « Vends tout ce que tu as, donne aux pauvres. » Non, si l'argent empêche d'être sauvé, oui, mais ces femmes qui l'assistaient de ses biens, était bien nécessaire qu'il ait de l'argent. Alors, aussi, un élément qui fait partie de notre vie sur la terre, c'est homme-femme. Nous sommes 50% de l'humanité, homme, et l'autre moitié, femme. Bon, alors tout de suite, on pense aussi, Jésus a dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a commis adultère dans son cœur. Mais oui, Jésus a dénoncé les petites aventures qui mènent à rien et qui commencent par un regard. Mais il n'a pas fait que dénoncer, il a annoncé la grande aventure d'un homme et d'une femme qui s'appelle le mariage. Et il est revenu à ce que Dieu avait institué. Et puis il y a ce grand sujet de Jésus et la souffrance, si ça fait partie de notre monde, oui. Et Jésus n'est pas venu pour expliquer la souffrance, il est venu pour la partager, la souffrance des hommes. Et c'est à ce titre d'ailleurs qu'il est notre grand souverain sacrificateur. Alors c'est bien d'avoir un modèle, je l'ai dit au début, mais il nous faut un Seigneur vivant maintenant. Et nous sommes assurés que nous avons un Seigneur vivant, pas seulement un modèle, un Seigneur vivant. Comment traverserions-nous cette vie sans un Seigneur vivant? Et c'est ce grand message de l'Épître aux Hébreux qui nous assure, sous différents aspects, que nous avons ce souverain sacrificateur, capable de sympathiser à nos infirmités, à nos souffrances, miséricordieux, fidèle, secourable, parce qu'il a fait l'expérience de la vie sur la terre. Et il est capable, il est toujours vivant pour intercéder pour nous, pour nous secourir. Mais il faut que je passe le relais à Jean.